Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
L'examen du budget 2022 à l'Assemblée nationale n'a toujours pas débuté 53 jours après son dépôt. D'après les députés Passisa Pamba, président du réseau parlementaire contre la corruption, ce retard est entretenu par le bureau de la Chambre basse et le gouvernement. Pour lui, la corruption existe déjà dès l'élaboration du budget en RDC. Passisa Pamba sera notre invité peu avant la fin de cette édition. Et puis cette mise au point de la CENI quant à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces, 143 formulaires de candidature ont été retirés, 104 n'ont pas été déposés et seulement 39 paiements de la caution ont été effectués. Enfin, tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi et la délégation belge conduite par le ministre d'État André Flao. C'était samedi à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa, une rencontre dont a découlé les premiers actes de réactivation du partenariat entre la Belgique et la RDC. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. 53 jours depuis le dépôt du projet de budget 2022 par le gouvernement, l'Assemblée nationale n'a toujours pas entamé son examen alors que l'article 83 de la loi relative aux finances publiques lui accorde 40 jours pour l'examiner. Ce retard est entretenu notamment par le gouvernement et le bureau de l'Assemblée nationale, affirme le président du réseau parlementaire contre la corruption. Pour lui, la corruption existe même lors de l'élaboration du budget en RDC, qui généralement examiné en mode d'urgence pour empêcher la population de s'en approprier. Le député national Passisa Pamba est au micro de Michel Kifindangoy.
La corruption existe même lors de l'élaboration du budget. Vous savez, le temps que nous mettons au Parlement pour traiter du budget, la loi a prévu 40 jours pour l'Assemblée nationale et 20 jours pour le Sénat. Mais il se fait que malheureusement, dans mon pays, depuis que je suis au Parlement, le budget est toujours traité en mode d'urgence. Donc je suis tenté de confirmer que c'est aussi un mode de corruption qui ne permet pas au peuple congolais de savoir exactement dans quelles conditions ce budget a été élaboré. Repérer des actes générateurs de recettes qui n'ont pas été repris dans le budget alors qu'ils existent, mais dont l'argent n'entre pas dans le compte du trésor, 60 à 70% de ces budgets sont consommés dans les milieux urbains par des ministères attitrés qui élaborent ce budget pour leur propre compte.
L'élu de Popo Kabaka, Passisa Pamba, est l'invité de Radio Okapi dans la dernière partie de cette édition du journal. Évaluer le niveau d'exécution des différentes recommandations formulées lors de l'examen des lois de finances 2019-2020 et la reddition des comptes 2018 en vue d'accroître les recettes du trésor public, c'est l'objectif de la mission effectuée par une équipe de sénateurs à Matadi dans le Congo central. Papi Bazego, rapporteur de la commission Ecofin, ajoute que cette mission est intervenue après la phase des auditions de certains membres du gouvernement, des responsables de régies financières et services publics dans le cadre des enquêtes parlementaire. Il s'exprimait ainsi ce dimanche 7 novembre à la presse. Papi Bazego est au micro de Paul Matendo.
Cette mission est la deuxième phase, parce que la première, vous devez le savoir, a commencé avec les auditions de quelques membres du gouvernement, ainsi que les responsables de certaines régies financières des services publics. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées par les parlements dans le cadre d'exercice des lois de finances 2019-2020 et la loi sur la reddition des comptes 2018. Maintenant, là, c'est la deuxième étape qui y est d'effectuer une descente sur terrain. Ça se fait comme partout ailleurs, à travers la République démocratique du Congo. Il s'est montré favorable et promet, n'est-ce pas, l'accompagnement de son équipe gouvernementale pour, n'est-ce pas, l'aboutissement heureux de cette mission.
Élection des gouverneurs de province, 143 formulaires de candidature retirés, dont 104 n'ont pas été déposés, 96 notes de perception retirées auprès de la DGRAD, 39 paiements de la caution effectués. C'est ce qui ressort du rapport consolidé de monitoring de 13 bureaux de réception et de traitement de candidatures à la clôture des dépôts de candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées. Ces statistiques ont été publiées par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans un communiqué diffusé la semaine dernière par le Matendo.
La même source révèle que 39 dossiers de candidatures ont été déposés dans certaines provinces, dont un pour un parti politique, 3 pour les regroupements politiques et 35 pour les candidats indépendants. En ce qui concerne les dossiers des candidatures enregistrées, il y en a eu 39, dont 4 femmes et 35 hommes. Au chapitre des contraintes, la CENI affirme qu'elle a été saisie par certains candidats des difficultés logistiques pour atteindre dans le délai leurs circonscriptions électorales pour le retrait des formulaires et la signature par des responsables des partis ou regroupements politiques généralement basés à Kinshasa. Toujours à ce sujet, les BRTC ont également été butés aux difficultés techniques dans leur fonctionnement dues notamment à la non-opérationnalisation de la VSAT, au traitement et à l'enregistrement des candidatures, précise ce communiqué. Selon toujours cette source, la CENI s'emploie à trouver des solutions à toutes ces difficultés. Un calendrier réaménagé sera annoncé pour l'organisation de ces élections. À la clôture des BRTC, 4 provinces n'ont enregistré aucun dépôt de candidature, à savoir le Bas-Zouélé, le Haut-Lomami, Kinshasa et Lomami, note la centrale électorale.
Alors, Radio Okapi entame ce lundi la diffusion d'une série de reportages sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Dans ce premier numéro, notre reporter revient sur les conditions de crédibilité, de transparence et d'inclusivité des élections qui devront avoir lieu en 2023, qui demeurent une exigence majeure de toutes les forces vives de la nation, y compris de la communauté internationale. Après la mise en place de l'équipe de la CENI et les protestations que cela suscite, 17 partenaires de la RDC, dont les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Union européenne, ont noté avec regret le manque de consensus dans la désignation de membres de la CENI et réaffirmé leur attachement à la tenue en 2023 des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles en RDC. Michel Kifindangoy, est-il encore possible d'organiser ces élections avec cette équipe de la CENI déjà contestée?
L'adoption de la loi organique et l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI ne sont que les débuts de plusieurs étapes du processus électoral. En effet, la prochaine étape cruciale pour la crédibilité et l'apaisement du processus sera l'examen et le vote de la loi électorale qui devra déterminer la règle des jeux des prochaines élections. Si un consensus politique est trouvé à travers le vote de cette loi sur notamment la question du seuil électoral, de l'identification des électeurs, du mode des scrutins, de l'observation électorale ainsi que de la transparence dans la publication des résultats, toute la méfiance occasionnée par l'installation de l'équipe de la CENI peut trouver des réponses. Certains opérateurs politiques et analystes de la société civile redoutent un nouveau passage en force de l'Union sacrée lors du vote de la loi électorale. Selon eux, cela risque de plonger le pays dans une profonde crise de légitimité qui pourrait être à la base d'un nouveau cycle de violence, ramenant le pays à la situation d'avant 2001. Insistant sur la nécessité de la tenue d'une table ronde électorale, ces analystes proposent même que les résultats de la prochaine présidentielle soient certifiés notamment par les observateurs des Nations Unies et de l'Union africaine.
Le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu ce samedi une délégation de parlementaires belges à la Cité de l'Union africaine. Au sortir de cette audience, André Flahault, ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral qui conduisait cette délégation, a déclaré être très satisfait des échanges et discussions autour de plusieurs questions avec le chef de l'État congolais. Le point de cette rencontre avec vous, Richard Junior Kamunga.
André Flahault a rassuré qu'après ces échanges, l'air ont permis de livrer au chef de l'État l'air impression sur tous les contacts et déposer symboliquement les premiers actes dans le cadre de la réactivation du partenariat entre la Belgique et la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'il a annoncé dès la semaine prochaine la tenue de la foire de Lubumbashi qui serait suivie dans l'avenir de celle de Goma. Le chef de la délégation a promis dès son retour en Belgique de discuter avec tous leurs collègues du Sénat et de la Chambre basse de la nécessité et l'urgence à donner un coup d'accélérateur en envie de rendre très actif et efficace le partenariat sur base du potentiel qu'il a découvert à la suite de tous ses contacts. André Flao a rappelé avoir insisté au cours de cet entretien d'une demi-heure avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, du caractère irréversible de la présence de la femme dans les institutions. Christophe Mbodia, président de l'Assemblée nationale, et Modeste Bahati ont assisté aussi à cette rencontre. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Belgique conjuguent bien d'efforts avec le président Félix Tshisekedi afin de booster les relations sur les divers plans.
Autre nouvelle, comment relever les défis en faveur du projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique Ruzizi 2 dans la ville de Bukavu? Cette question a été au centre d'un débat samedi ici à Kinshasa, sous l'initiative du gouverneur du Sud-Kivu entre les caucus des élus de cette province, ses originaires membres du gouvernement central et une délégation du gouvernement provincial. Financé par l'Union européenne à hauteur de 8 millions de dollars américains, ce projet intégrateur sera exécuté par l'organisation Trademark East Africa, a indiqué le ministre provincial chargé des transports, voies de communication et tourisme. Par ailleurs, son démarrage effectif nécessite l'indemnisation de 266 ménages avec un montant estimé à 5 millions de dollars américains pour leur délocalisation du site. Ce qui nécessite l'implication des filles et fils de cette province, a dit Mathieu Alimassi Maloubi. D'autres détails avec Jean-Désiré Kanyam.
D'entrée de jeu, le ministre provincial chargé de transport, voies et communication et tourisme s'est appesanti sur les travaux à réaliser. Mathieu Alimassi.
En termes simples, c'est la construction des infrastructures, les bâtiments, du parking, des grands véhicules qui viennent de la Tanzanie, du Rwanda et ailleurs. Et là, nous aurons un grand espace pour juste garer les véhicules.
Ce projet aura un impact socio-économique visible, estime le député national Olive Moudekere Zanamegabe, en même temps acteur du secteur privé.
Vous savez, l'économie au monde, c'est l'État. Si vous avez un arrêt unique, vos camions, vos véhicules passent facilement et rapidement. Ça sera meilleur pour le développement de notre région et la RDC en général. Vous avez suivi les trains de market qui a dit qu'il y a au moins 50 ou 30% qui échappent parce qu'il n'y a pas d'arrêt unique.
Députés nationaux et sénateurs ont promis leur implication. Vital Mouini Bagnosizé, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.
Ce projet a toute notre adhésion, tous les soutiens de tous les députés. Nous allons nous mobiliser pour e-lobbying afin de trouver des moyens, afin que toutes les parties prenantes puissent se mettre à l'œuvre parce que ça va profiter non seulement à la province mais aussi à tous les pays. Nous devons aussi protéger les ménages. Nous sommes l'émanation de ces ménages là-bas, de ces populations.
Reste que soit mobilisé le montant de 5 millions de dollars pour indemniser 266 ménages en vue de leur délocalisation du site pour effectivement démarrer les travaux.
Toujours en ce qui concerne la province du Sud Kivu, clôture ce week-end à Bukavu de la troisième réunion du comité de pilotage du programme ESPER, Ensemble pour la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Un programme mis en place l'année dernière dans les deux provinces du Kivu et de l'Ituri. Il vise la stabilisation à travers la promotion et la gouvernance sécuritaire et judiciaire, ainsi que la cohésion sociale. Les experts des trois provinces de la RDC ont formulé une série de recommandations dont nous parle ici Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
La principale recommandation porte sur le renforcement des forces de sécurité et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Envisager aussi la permutation de certains policiers et militaires, favoriser la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les trois provinces concernés. Ceci afin de répondre aux défis majeurs dont les conflits intercommunautaires, l'activisme des groupes armés et d'autres formes d'insécurité qui persistent dans certaines zones d'action. Il est donc nécessaire de garantir l'appropriation des acquis de ce programme et des engagements des acteurs impliqués. Ensemble pour la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC est un programme mis en œuvre l'année 2020 par les consortiums VNG International et Corded en Ituri et dans le Deux Kivu. La rencontre de Bukavu a réuni les vice-gouverneurs de ces trois provinces. Les travaux de l'hôtel Panorama ont connu également la participation des délégués de l'ambassade des Pays-Bas, de ceux de la présidence de la République et bien d'autres personnalités de la territoriale. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis en séjour dans la région des Béni depuis vendredi dernier, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu en audience samedi dans la soirée des représentants des couches de la population des Béni. Objectif, s'enquérir de leur point de vue sur la perception de l'état de siège. La Fédération des entreprises du Congo FEC, dont les représentants ont également été reçus, se dit réconfortée par les promesses faites par le chef d'état-major général pour le rétablissement de la paix sur les axes routiers. Gertrude Kaindo Viumbira, président de la FEC, a béni ses confiés à Gulen Kassassia.
On a partagé avec lui. On lui avait dit, oui, il y a des choses positives et négatives. On ne peut pas juger qu'il ne travaille pas. Oui, il travaille. Mais néanmoins, on nous avions demandé si on peut nous aider. D'abord, pour les sécurités qui se passent dans les territoires et à route, ça ne nous aide pas. Puisque nous sommes des commerçants, quand il n'y a pas calme, on ne saura pas travailler. Mais de toute façon, il nous a promis qu'il va faire des sommets. Il ne nous promet pas que ça serait aujourd'hui ou demain, mais il nous promet. Vraiment, il va se appliquer, vous avez confiance à lui. On ne peut pas être négatif. Nous espérons. Voyons ce qu'il a promis, s'il va faire ça. Nous nous disons seulement de nous réconforter, de les accompagner. Si quelqu'un voit un civique qu'il puisse dénoncer, puis de toutes les façons, quand les choses se passent comme ça, on incendie le véhicule, ça nous fait mal. Puisque tu as déjà des camions ou bien trois, tu reviens à zéro. Donc ce n'est pas toi seul qui perds, c'est toute la population. Et tout ce qu'on peut demander, si on peut avoir un mécanisme d'aider ceux qui ont perdu, ça pouvait aussi nous aider.
Actualité internationale.
Fin du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra. Principale décision, durcissement des sanctions individuelles contre des dirigeants maliens et guinéens. Au cours du huis clos, il a été fait mention d'une lettre officielle par laquelle le gouvernement malien annonce qu'il ne peut pas tenir des élections présidentielles et législatives en février 2022. Comme initialement prévu. Concernant la Guinée, Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la CDAO, a fait savoir que les chefs d'État ont insisté sur l'urgence de libérer l'ancien président Alpha Condé, qui est prisonnier des putschistes de Conakry.
L'invité.
La corruption existe même lors de l'élaboration du budget en RDC, d'où ce retard entretenu dans la programmation de son examen. C'est ce qu'a affirmé le président du réseau des parlementaires contre la corruption. Le député national Passi Zapamba est notre invité dans cette édition. Il répond aux questions de Michel. Oui, suivez.
Passi Zapamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le gouvernement a déposé le projet du budget depuis le 15 septembre, conformément à l'OFIP. Mais depuis lors, l'examen de ces projets de loi n'est toujours pas d'actualité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe?
Merci, monsieur le journaliste. Et je ne sais pas répondre à la place du bureau, mais en tant que député, j'ai réagi en disant que la loi prévoit qu'on dépose le 15, oui, nous avons tous suivi par la voix des ondes que le Premier ministre est passé, mais les détails, à ce que je sache, que c'est pas tout le travail qui a été déposé le 15. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, il va sans dire que l'on ne peut pas commencer à traiter le budget sans qu'on ait des informations de la gestion antérieure. Nous devons préalablement savoir comment les fonds publics ont été gérés en 2020. À ce que je sache, au moment où je vous parle, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, qu'on venait de déposer la reddition des comptes de 2020. Donc, il n'était pas possible pour l'Assemblée nationale de programmer les travaux budgétaires sans qu'on ait analysé la reddition des comptes.
Mais la même loi, la LOFIP, fixe la date limite de l'examen de la loi portant reddition des comptes au 15 juin. Mais comment vous êtes parti du mois de juin jusqu'en novembre, alors que l'Assemblée nationale avait la possibilité de faire pression sur le gouvernement?
Bien, vous savez, cette pression, depuis les moments immémoriaux, cette exigence a toujours été le leitmotiv du Parlement, qu'on puisse déposer les documents à temps. C'est cette mauvaise tradition qu'il faut arrêter. Parce que pour tout député qui doit aller en vacances parlementaires après la session de mars, il doit être en possession de résultats de l'analyse de la reddition des comptes. Pourquoi? On peut vous dire par exemple qu'à Popokabaka, pour l'année par exemple 2020, il a été construit un pont qui est repris dans la reddition de comptes. Et quand vous descendez en vacances, il est question de confirmer ou d'infirmer la construction de ce pont. Mais il se fait que malheureusement, même à la date d'aujourd'hui, les documents de reddition de comptes n'ont pas été déposés avant le dépôt du budget.
Comment réagissez-vous à ceux qui pensent que ce retard est tout un système organisé et entretenu pour empêcher au peuple congolais de s'imprégner du contenu du budget et de la manière dont il a été exécuté. Une forme de corruption et de détournement massif des fonds congolais.
Mais, monsieur le journaliste, c'est pas la première fois que vous me posez cette question. Je vous avais déjà dit que la corruption existe même lors de l'élaboration du budget. Vous savez, le temps que nous mettons au Parlement pour traiter du budget, la loi a prévu 40 jours pour l'Assemblée nationale et 20 jours pour le Sénat. C'est pourquoi la session de septembre est souvent appelée session budgétaire. Mais il se fait que malheureusement, dans mon pays, depuis que je suis au Parlement, le budget est toujours traité en mode d'urgence. Donc je suis tenté de confirmer que c'est aussi un mode de corruption qui ne permet pas au peuple congolais de savoir exactement dans quelles conditions ce budget a été élaboré, pourquoi telle recette n'a pas été reprise, pourquoi telle dépense existe-t-elle. Donc jusque-là, à mon humble avis, on fait du copier-coller. Et que la plupart de ces budgets, 60 à 70%, sont consommés dans les milieux urbains et on fait fi de l'existence des milieux ruraux. Dans la pratique, malheureusement, c'est consommé par des ministères attitrés qui élaborent ce budget pour leur propre compte.
Mais en même temps, l'article 83 alinéa 3 ne vous autorise plus, vous, Assemblée nationale, d'examiner ce budget parce que vos 40 jours sont déjà largement dépassés. Vous devriez en principe transmettre ce budget dans l'État au Sénat pour l'examiner dans les 20 jours.
Vous voulez dire, monsieur le journaliste, qu'on va commencer à l'appliquer sans que nous, le Parlement, n'intervienne? Non. Sur le plan pratique, les textes existent d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, ça va être examiné.
Mais vous violez la loi quand même.
Il faut qu'on corrige le système. Il faut qu'on corrige. En fait, ce sont des signaux qui doivent être manifestes lorsqu'on parle de changement. Nous devons respecter nos propres textes. Quand les textes ne sont pas respectés, il n'y a pas état de droit.
Patrice Apamba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.